Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Avant-dernière fin de semaine de septembre 2024. Ici Alex Baillargeon, bienvenue à la 11e saison du Réchaud, épisode numéro 455. Bienvenue au 315e deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées en cette première édition de l'automne. La session est bien commencée à l'université, quoique l'automne, elle, c'est le 23 septembre, on y arrive. Et si quelque chose qui arrive, ce sont bien des élections partielles qui ont été complexes pour Montréal, mais relativement correctes pour l'Ouest. Au Manitoba, dans la circonscription d'Elmwood, Transcona. Layla Dance, du Nouveau Parti démocratique, a remporté son pari avec 13 597 voix devant le conservateur Colin Reynolds à 12 415. Donc, un mille confortable, un 4 points d'avance qui a peut-être un peu conforté Jagmeet Singh d'avoir déchiré l'entente, d'avoir déchiré la garantie que le gouvernement libéral ne serait pas défait avant la date électorale de 2025. Pour ce qui était de la circonscription de LaSalle-Aymard-Verdun du côté de Québec, plutôt du côté du Québec à Montréal, le pari était différent. Parce que si à Elmwood, Transcona, au Manitoba, c'était un château fort NPD, il ne fallait pas qu'il tombe. Surtout au Manitoba, qui est dans les quelques petits endroits qui restent encore des circonscriptions à autre chose que le Parti conservateur. Du côté du Québec, il y avait un enjeu beaucoup plus important. Au sens où le Parti libéral devait performer pour montrer qu'il n'est pas un parti en perte de vitesse, sur le bord de perdre, d'énormément perdre, au prochain tour électoral général. Le NPD devait prouver qu'il était vraiment l'alternative et aux libéraux et aux conservateurs. Les conservateurs pouvaient peut-être prouver qu'ils étaient là pour rester, même si ce comté de Montréal-là n'était pas acquis. Et même à certaines personnes, on pensait même que les conservateurs allaient peut-être faire une certaine percée. Ça ne s'est pas produit, puisque c'est plutôt le Bloc québécois qui est venu brouiller les cartes en remportant l'élection. Mais c'est pas comme en Alberta avec une différence de 1000 voix entre les deux premières positions. Dans ce cas-ci, ça s'est joué au coude à coude dans les trois propositions, soit celle du Bloc, du Parti libéral et du NPD, pour terminer respectivement avec 8925, 8656 et 8272. Donc, entre le Bloc et le NPD, qui proposaient tous deux des candidats dénommés Sauvé, Louis-Philippe pour le Bloc, Craig pour le NPD, 700 voix, un peu moins de 700 voix séparent la première et la troisième position. Et à peine 200 quelques voix séparent les libéraux et le Bloc québécois. Donc, c'est pas un message clair qui a été envoyé, mais quand même problématique pour le Parti libéral. Parce que le Parti libéral a perdu, le NPD a perdu contre le Bloc québécois. Et ce sera peut-être ça l'enjeu rendu à l'élection générale. Puisque si le Bloc québécois redevient majoritaire au Québec, par exemple, parce que présentement, avec l'élection de Louis-Philippe Sauvé, ça faisait en sorte qu'il devenait maintenant 33 députés du Bloc québécois à l'Assemblée au Parlement à Ottawa. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, lors d'une prochaine élection, les comtés libéraux s'effondraient, et que, par exemple, le Bloc québécois prenait l'avance dans la province. Le Québec étant le dernier bastion canadien où le Parti conservateur ne performe pas, où techniquement ne ferait peut-être pas de gain, ou, juste pour dire, donc situerait sa députation à 10-12 députés comme c'est présentement le cas, donc, il n'y aurait pas de gain au Québec pour les conservateurs. Mais l'appui libéral se verrait diminuer. L'appui du Bloc se verrait augmenter. Ce qui fait en sorte que, à Ottawa, comme présentement, c'est le Parti conservateur qui va l'emporter dans toutes les autres provinces. Ça, c'est un secret de polichinelle. Quoiqu'il y a une petite baisse des intentions, mais pas assez pour dire que présentement, le Parti conservateur s'effondrerait. Impossible. Avec 43 % des intentions de vote versus 24 pour le Parti libéral, on est en territoire majoritaire, même majorité écrasante des conservateurs depuis au moins 2 ans. Donc, depuis l'année suivant la dernière élection, oui, 25-22, non. Non, parce que l'élection a lieu... Enfin, les intentions de vote sont toujours à majorité conservatrice. Oui, le vote populaire avait été remporté par les conservateurs, me semble. Puis vu que les libéraux étaient un petit peu plus stratégiques, il y avait eu assez de sièges, même si c'était minoritaire, c'est vrai. Conservateur avec quand même une petite majorité de votes, mais passé pour former le gouvernement de façon majoritaire. Là, en ce moment, avec 43 % des intentions de vote, c'est environ 219 sièges sur une possibilité de 343. On a augmenté le nombre de députés au Canada. Donc, c'est une majorité écrasante, même si les conservateurs perdaient l'ensemble de tous ces combats avec toutes les autres députations, ils finiraient quand même à 189, soit 17 de plus que la majorité nécessaire. Fait qu'ils seraient majoritaires, peu importe, présentement. Pour le Bloc, ce que ça ferait, voilà. Qui pourrait devenir l'opposition de Pierre Poilievre. Présentement, ou en date de la semaine dernière, si les élections avaient lieu, le Bloc québécois pourrait remporter une quarantaine de sièges au Québec, ce qui serait une relative majorité. Quoique, non, le Parti libéral serait quand même à 68. Donc, il ne serait pas nécessairement l'opposition directe, mais serait quand même en majorité. De toute façon, avec des chiffres comme 68 députés libéraux, 40 blocs, 14 NPD, c'est assez risible. Il y a... L'opposition ne servira à rien pendant 4 ans de temps parce que les conservateurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. À cette question, on a demandé cette semaine si le Bloc québécois allait appuyer la proposition du Parti conservateur de déclencher des élections hâtives en défaisant le gouvernement libéral. Ce à quoi François Blanchet a dit que non. Il n'allait pas défaire le Parti libéral la semaine prochaine. Ce qui a fait dire à Pierre Poilievre que c'était des vendus, que c'était des si, des pas bons, des ça, nanana, que le parti, le Bloc québécois, l'alliance Bloc libéral allait perdurer, puis nanana. Donc, on a commencé à traiter de nom le Bloc québécois. Surprise, le Bloc québécois n'est pas particulièrement friand de ce genre d'insultes cheap-là de Pierre Poilievre. Donc, les conforte dans leur décision de ne pas donner leur appui à Pierre Poilievre dans les circonstances. Ce qui a fait également dire, un peu plus tard dans la semaine, à Jack Mitzing, qu'il n'était pas question non plus qu'ils allaient, eux aussi, être d'accord avec le Parti conservateur pour défaire le gouvernement de manière hâtive. Bon. Évidemment, on pouvait s'attendre à ce que le NPD fasse cette séparation-là parce qu'ils ont déchiré l'entente. Plusieurs analystes ont dit c'était quoi l'urgence de déchirer l'entente si, en plus, au premier vote de confiance, ils réitèrent leur confiance. Essentiellement, d'autres experts s'entendent pour dire que c'était pour sauver le comté au Manitoba. En se dissociant vraiment des deux, en distanciant les deux parties du côté du Manitoba, ça garantissait, ou en tout cas, ça redonnait quelques espoirs au candidat, à la candidate du NPD pour peut-être l'emporter, reconquérir le bastion NPD pour la partielle, quand même que ça durerait entre un mois et 10-11 mois-ish avant le déclenchement de l'élection générale. Ce que ça fait en sorte, c'est que, bon, oui, évidemment, sans surprise, M. Poilievre n'est pas de bonne humeur, mais en même temps, c'est normal pour le Bloc et le NPD de ne pas vouloir déclencher des élections hâtives parce que, justement, en ce moment, c'est 219 sièges que ça donne à Pierre Poilievre. Est-ce qu'on... Donc... Ben, ou 217 ou 219. Fait que, tu sais, 219. Fait que, de projeter. Fait que ça, encore là, il peut avoir des surprises, il peut avoir de plus, il peut avoir moins, mais une moyenne de 219 si des élections ont lieu précipitamment. L'idée... et c'est pas complètement fou, c'est de justement attendre le plus longtemps possible. Et le Bloc et le NPD peuvent faire leur demande au Parti libéral. Le Bloc, eux, veulent des équivalences pour les retraites et des Canadiens, mais surtout des Québécois. Le NPD a encore quelques petits trucs qu'ils veulent faire passer, évidemment. En tenant le Parti libéral à bout de bras, c'est sûr qu'ils peuvent peut-être obtenir quelques concessions. Et c'est le but de « Ouais, là, Justin, si tu nous donnes pas ce qu'on veut, on va y aller en élection. » Quand, dans les faits, ni le NPD, qui perdrait de la députation, malgré tout le Bloc qui, eux, en gagnerait, ce n'est pas suffisant pour dire « oui, nous devons aller en élection maintenant ». Pourquoi? Parce qu'il faut faire en sorte que, justement, Pierre Poilievre s'étrangle avec sa propre corde, au sens où, à répéter les mêmes quatre slogans, à répéter la même cassette de « gros bon sang, gros bon sang, gros bon sang, gros bon sang », que les libéraux ont... détruit le Canada, que la vie au Canada est misérable, que tu sais d'accuser de tous les maux le Parti libéral, que justement ce discours-là hargneux, à traiter tout le monde de nom comme on le fait aux États-Unis, parce que veux, veux pas, c'est aussi une carte qu'on essaie d'inculquer, d'essayer de toujours, c'est ça, de toujours être en confrontation, de toujours être fâché après tout, de jamais trouver rien de positif à dire autre que le Canada s'en va chez l'IAUB. Mais c'est sûr que pendant un an de temps, donc à partir de maintenant jusqu'au déclenchement des élections à l'automne prochain, si Pierre Poilievre ne change pas de discours, les gens vont en être tannés. Et c'est le pari que prend en ce moment le Bloc et le NPD, c'est de dire « laissons le Parti conservateur se caler eux-mêmes ». Un peu comme François Legault qui le fait de son côté en disant « là, le Bloc, faites votre job », en s'ingérant dans la politique fédérale quand François Legault est le premier à déchirer des chemises à tout le monde, quand Justin Trudeau ose dire quelque chose à propos du Québec. Là, cette semaine, François Legault dit « là, le Bloc, faites votre job, défaites le gouvernement. Je voudrais un gouvernement conservateur pour la deuxième fois. » François Legault dit clairement qu'il veut que les conservateurs redeviennent l'opposition à Ottawa. Ben, le gouvernement à Ottawa, je devrais plutôt dire. Ça fait en sorte que on se garochera pas. Pas parce que, justement, François Legault s'ingère dans la campagne fédérale que, nécessairement, le Bloc québécois va dire « Ah ben là, si François Legault nous le demande, on va le faire. » C'est pas vrai. Yves-François Blanchet, d'ailleurs, a fait dire que non, en précisant qu'il n'était ni surtout pas libéral, surtout pas conservateur, encore moins caquiste. Sans nécessairement dire qu'il était péquiste, mais quand même. Fait que... en étant un ancien député du PQ, c'est vrai. Fait que tu sais, on n'aura pas d'élection cet automne, si tout va bien. Peut-être au printemps, ce qui serait le scénario le plus plausible pour l'instant, à moins d'un revirement de situation complet, mais il y a déjà des élections dans les provinces également. Dans l'Ouest puis au Nouveau-Brunswick, il y a des élections provinciales. Donc, une élection fédérale, une élection fédérale en plus qui se rajoute, ça commence à faire beaucoup. Donc l'intérêt pourrait ne pas être là et faire en sorte que justement une élection, ça pourrait faire en sorte que on commence à un peu moins s'y intéresser. Ce qui n'est pas le but non plus de ne pas intéresser les gens, parce que si les gens n'y sont pas intéressés, ne vont pas voter, et il y a possibilité pour quelques personnes de se faufiler. Donc, y aura-t-il des élections cet automne? Pour l'instant, ça ne devrait pas. Plusieurs parlent du printemps. Dans le meilleur des mondes, les libéraux coopèrent vraiment beaucoup avec le Bloc et le NPD, et on se rend quand même à terme du mandat rendu à l'automne 25. Mais le temps est compté et ça sera pas facile pour les oppositions conservateurs qui, pour l'instant, l'emportent, peu importe le scénario possible, de manière majoritaire pour 4 ans intensives. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ et Chiz 94.3 à Québec. Noé Talbot, Émilie Plamondon sur les ondes de CFA 80.3 de Chiz 94.3. Le titre faisait un peu rire, mais la chanson est bonne. Comme je le disais cette semaine, François Legault a fait un Justin de lui-même en s'ingérant dans le palier de gouvernement qui n'est pas le sien, en disant ouvertement, et ce, comme d'habitude, de manière maladroite, qu'il voudrait que Paul Saint-Pierre Plamondon colle son chum Yves-François pour lui dire « Là, ce serait le temps de défaire le gouvernement de Justin Trudeau. » Je mets au défi Paul Saint-Pierre Plamondon de demander au Bloc de défaire Justin. Rien de moins. On se souviendra qu'en campagne électorale, François Legault avait invité les Québécois à voter en faveur de... On dirait que je l'ai oublié, c'est Andrew Scheer ou... oui, c'est Andrew Scheer. À la dernière campagne? Non. Oui? Je me souviens plus. Ah, tu fais ça. Ils ont tellement enchaîné rapidement. Voilà, donc on a demandé à ce que le gouvernement soit défait au fédéral. Tous les partis ont leur lot de contradictions, c'est ce qu'on peut dire en une certaine manière. Mais ce qui a surpris même la frange souverainiste au Québec, c'était que le Bloc québécois s'est empressé de dire qu'il n'allait pas... entériner la motion de censure des conservateurs. Semble-t-il qu'on était surpris au Québec également. Mise sous tutelle des pouvoirs à l'Assemblée nationale, État de plus en plus unitaire, arrogance inouïe, manœuvre visant à écraser ceux qui refusent de s'assimiler, plus gros dérapage budgétaire de l'histoire récente. C'était ce que disait... le chef du Parti québécois pour décrire les empiètements du gouvernement fédéral dans les champs de compétences du Québec. Voir Paul Saint-Pierre Plamondon expliquer qu'un nouveau gouvernement fédéral ne ferait sans doute pas mieux que celui de Justin était assez ironique. Le chef péquiste n'avait pas d'autre choix que de se montrer solidaire vis-à-vis avec son vis-à-vis souverainiste, mais il a tout de même répété plus d'une fois qu'il n'était pas responsable de la stratégie bloquiste. Donc évidemment, Paul veut s'en, veut s'en défaire le plus possible. Mais en même temps, c'est normal, de, encore une fois, de ne pas vouloir se précipiter en élection parce que ce bout-là est vrai. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on remplace les libéraux par Pierre Poilievre que la situation va devenir meilleure et que les jours ensoleillés reviendront, même si Sunny Ways appartient et, à Justin Trudeau lors de son élection, mais que Pierre Poilievre a décidé d'adapter... et d'adopter que les jours sombres allaient disparaître lorsque le gouvernement libéral allait lui aussi disparaître. Le choix des priorités du Bloc en a surpris certains à Québec alors que le Parti québécois entend faire de l'immigration l'enjeu de l'automne en publiant un vaste document d'orientation sur le sujet. Ça risque d'être fort passionnant. Le Bloc a en effet une autre priorité parmi dans ses négociations avec le gouvernement Trudeau. La bonification des pensions pour aînés sera le cheval de bataille, je devrais plutôt dire, du Bloc québécois pour l'automne. Voilà, et ça, bon, je cite Hugo Lavallée de Radio-Canada là-dessus. Le Bloc québécois veut se donner du temps pour mener à bien ses discussions avec le Parti libéral. Il croit surtout avoir plus à gagner à assurer la survie du gouvernement minoritaire qu'à contribuer à l'élection d'un gouvernement majoritaire conservateur, scénario qui semble inévitable au vu des plus récents sondages. Encore faut-il bien jouer ses cartes pour tirer profit des avantages que procure la situation actuelle. Donc, comme je le disais, le plus important en ce moment... pour et le Bloc et le NPD, c'est de faire le plus de gains possible pour leurs entités. Comme ça, rendus à l'élection, en plus, ils vont pouvoir se vanter d'avoir réussi à soutirer des choses de Justin Trudeau. Voici les gains que nous avons faits pour nos formations respectives. Ce qui fait dire également que, parce qu'on sait que le prochain gouvernement sera majoritaire, que de toute façon, peu importe ce que diront les oppositions, tout sera gagné, ou en tout cas, tout sera envoyé d'office au gouvernement de Pierre Poilievre. Même si le Bloc et le PQ n'ont pas voulu embarquer dans le jeu de François Legault, il est clair que la sortie du premier ministre québécois contribuera à accroître la pression sur le Bloc pour qu'il obtienne rapidement des résultats. Quoique, en même temps, on n'est pas à attendre que demain matin, la majoration des pensions se fasse. C'est sûr et certain que Justin Trudeau va prendre son temps. Mais en même temps, pas trop, parce que justement, ça donnerait raison à l'adversaire qui dit qu'il prend... qui s'en fâche dans les détails et qui n'agit pas rapidement. François Legault, voilà, qui est sorti sur la place publique. Le chef avait fait la création d'un groupe de travail pan-canadien chargé d'examiner la question des demandeurs d'asile était peut-être un petit peu plus une priorité québécoise, même si, parce que étant parmi les provinces qui récoltent le plus de... de nouveaux demandeurs d'asile. Le fait qu'ils demandent maintenant au Bloc québécois de se débarrasser du gouvernement libéral ressemble drôlement à un aveu d'échec de ne pas avoir été capable de l'obtenir avec le gouvernement Trudeau. Donc, je n'ai pas ce que je veux. Changeons le porte-parole du fédéral et peut-être que là, obtiendrons-nous des gains. Scoop, bien sûr que non. Ce n'est pas parce que François Legault dit « voter conservateur » que pour autant, Pierre Poilievre va devenir le meilleur chum body-body de François Legault. Parce qu'en plus, sa province n'aura pas de députation conservatrice majoritaire. Et si on se fie à ce que François Legault fait lorsque les députés ne viennent pas de ses régions à lui, règle générale, ces comtés-là sont un petit peu moins favorisés par le gouvernement au pouvoir. Donc, on peut deviner que si Pierre Poilievre ne tombe pas majoritaire au Québec, pendant 4 ans, il y a beaucoup de chances que ça ne soit pas les députés du Québec qui soient inclus dans les discussions. Quoique, on en a des bons quand même. Pierre Paulus, Gérard Deltel, qui sont des vaillants à Pierre Poilievre. Peut-être eux auront... Gérard Deltel un peu moins, mais en tout cas, Pierre Paulus sûr. Peut-être lui sera-t-il un peu mis de l'avant ou restera-t-il le gouverneur du Québec ou peu importe comment ils vont l'appeler. Essentiellement, on jase de politique les uns des autres, c'est sûr et certain. Mais quand le premier ministre se prononce sur une imminente campagne, là, ça devient plus problématique. Et justement, là-dessus, François Legault l'a échappé encore cette semaine. Paul Saint-Pierre a été un peu plus dans la réserve, sans nécessairement dire qu'il souhaitait qu'on défasse le gouvernement fédéral. C'est garder une petite retenue, ce que François Legault aurait peut-être dû faire également, mais faut lui pardonner. Il perd des députés à chaque semaine. Youri Chassin, en date du dernier député Kakis, qui claque la porte, qui devient indépendant. Lui, au moins, reste en place, contrairement à Pierre Fitzgibbon. Fait que, ne serait-ce que pour ça, dans Saint-Jérôme, Youri Chassin sauve une élection partielle, contrairement à Fitz. Mais reste quand même que le fameux 90 tombe tranquillement. Il ne fait plus que 86. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et chez 94.3 à Québec. Libre de Clopelgag, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de chez. Nouvel extrait, ou en tout cas, moi, je ne l'avais pas entendu. Très, très bon. C'était les Gémeaux en fin de semaine. Peut-être l'avez-vous finalement vu passer. Du moins, les spectateurs étaient un peu moins au rendez-vous. Fait qu'on l'a un peu manqué aussi en tant que spectateur. Un peu moins de cote d'écoute que les années précédentes. Malheureusement pour Pierre-Yves Lard, qui a fait une job somme toute réussie. Les gens trouvaient que c'était un gala très ordinaire. Un peu longuet, 2h15. Mais il y avait des bons gagnants malgré tout. Gala de l'après-midi qui a été passé sous silence. Il n'y avait pas de diffusion à RTV, ou en tout cas, peut-être que c'est mon guide horaire qui était mal identifié parce qu'il n'était pas inscrit. Fait que peut-être que je l'ai juste manqué. Mais en tout cas, il n'y avait pas l'air d'avoir de traces d'un gala d'après-midi cette année. Mais quand même, beaucoup de statuettes ont été remis, animées par Nicolas Ouellet. Notamment, meilleure émission spéciale ou série humoristique, c'est le Club Soli pour son ultime saison qu'il l'a emporté. Dans les émissions spéciales, série variété, art de la scène, c'est Révolution, l'émission de danse, la 5e saison. L'émission d'entrevue, pour une fois, à Télé-Québec, a remporté meilleure émission série d'entrevue ou talk show. Je suis quand même surpris, ça veut dire qu'ils ont probablement gagné sur Tout le monde en parle. Meilleur jeu, c'est Sans génie, saison 5, où on retrouvait les Sans génie, qui a remporté pour la meilleure émission de jeu. Meilleure télé-réalité, c'est allé à Chef de bois, la 3e saison du côté de Télé-Québec. Meilleur magazine culturel, c'est allé à la 17e saison de C'est juste de la TV à ICI. RTV. Meilleur magazine intérêt social, c'est Dans les médias, Marie-Louise Arsenault sur les ondes de Télé-Québec. Meilleur magazine curieux Bégin, émission spéciale ou série dans la catégorie Affaires publiques, c'est la semaine verte. Ça, j'étais content quand même. Meilleur documentaire, le documentaire Adonis sur les jeunes garçons et leur rapport à la masculinité. Je n'avais parlé à l'émission, puis vraiment particulier comme documentaire. Je pense qu'il est encore sur la plateforme Télé-Québec. Je pense que c'est encore sur la plateforme de Télé-Québec pour le rattraper. Premier trio, meilleure émission série jeunesse. Ça, j'étais content pour eux. C'est vraiment une bonne petite série jeunesse. D'ailleurs, acteur de soutien est allé à... OK, dans la catégorie jeunesse, à Mathieu Drouin. Meilleur rôle de soutien féminin-masculin. Cette catégorie-là était non-genrée. On a ramené les catégories genrées au gala principal parce que justement, ça n'avait pas fait l'affaire de personne l'année passée. Soirée Mammouth 2023, meilleure émission série jeunesse divertissement. Meilleure émission série de sport, le hockey des Canadiens à RDS. Meilleure émission série d'animation, Mini-Jean et Mini-Bulle saison 2. Je pense que c'est à Radio-Canada. Dans les interprètes, voilà, j'ai été rapidement. Pour les dramatiques, Madeleine Péloquin et Benoît Drouin-Germain, L'Empereur avant le crash. Série dramatique annuelle, rôle de soutien féminin-masculin, Marie-Chantal Perron et Paul Amarani, tous deux pour Alerte. Et dans les comédies, Inès Talbi pour la candidate et Steve Laplante pour Inspirer, Expirer. Voilà, bon, meilleure interprétation humour, c'est le club Soli. Pour les rôles principaux dans les séries jeunesse, Sébastien René, L'île qui l'eût cru, Estelle Fournier, comme des têtes, pas de poule. Gala principal, le dimanche soir, comme je le disais, gala qui était pas si mal. Ça passera pas à l'histoire des meilleurs galas non plus, mais c'était pas la catastrophe tant que ça. Il y a Jeannette Bertrand qui était présente pour son 99e anniversaire, ou en tout cas pour son année, c'est 99 ans, et qui a peut-être lancé une des meilleures blagues au courant de la soirée en disant « Là, arrêtez de m'applaudir, parce que sinon je meurs devant vous autres, ça va être votre faute. » Ce qu'évidemment, on a jumelé avec Mathieu Pepper, qui est probablement celui qui rit le plus fort dans la salle. Donc, moment très drôle, et Jeannette Bertrand n'a pas quand même perdu sa tête, fait que voilà, ça allait bien de ce côté-là, elle a été quand même très très drôle. Dans les catégories du gala principal, Marc Labrèche a remporté le premier trophée de la soirée avant de partir et rater sa deuxième catégorie, à peu près. Meilleure animation, magazine culturel, entrevue, talk show pour Je viens vers toi, c'est lui qui est reparti avec la statuette. Meilleure animation, documentaire ou affaires publiques, c'est Sarah May qui l'a remporté pour la série Elle, qui était sur les ondes de TV5. Meilleure animation jeunesse, c'est Joanie Lamoureux pour le Safari de Joanie, elle-même qui était complètement surprise de remporter le trophée. Le prix du public est allé à Discussion avec mes parents pour la deuxième année consécutive, qui a d'ailleurs rendu un François Morancy assez ému, étant donné que la série se termine également cet automne. Meilleure animation jeu, il l'avait remporté pour Meilleur jeu, mais il l'a remporté également pour l'animation. Pierre-Yves Lard repart avec le trophée pour Sans génie. Meilleure animation variété War de la scène, c'est France Beaudoin avec En direct de l'univers qui repart avec le trophée pour le spécial du jour de l'an. Jean-René Dufort pour le spécial de fin d'année avec pour la catégorie meilleure animation d'émission d'humour. Ouais, c'est pas dans celle-là que Louis-José y était. Comédie dramatique, meilleur premier rôle féminin, c'est allé à Catherine Chabot pour souligner notamment le fait que sa série avait été elle aussi dépluguée avant la fin. Robin Joelco, lui, l'emporte pour Tant de chiens, qui a créé la surprise également en passant devant Steve Laplante pour Léo, qui habituellement est assez favori, et devant Marc Labrèche pour La petite vie 30 ans plus tard, catégorie où justement Marc n'y était plus. Mais les pronostics disaient que Marc Labrèche allait l'emporter. J'étais content qu'il ne l'emporte pas parce que, comme je le disais dans les épisodes précédents, je trouvais pas que c'était lui le meilleur du retour de La petite vie. Fait que j'étais surpris qu'il soit en nomination pour le trophée.
Ben, ce n'est pas lui qui l'a emporté.
Du côté des séries dramatiques, bon, fallait préciser aussi, parce que avec l'abandon des productions complètes de Fabienne Larouche, donc Stat ne pouvait pas être en nomination, Clash, je pense, ou Crash? Non, Clash. Clash, l'autre série qui était à une époque sur super écran, mais qui est allée à Vrac avant de s'en aller sur Crave, j'imagine, n'était pas éligible non plus. Même, je suis en train de me dire, y avait-tu une saison 4? Peut-être pas. fait, tout ce qui concernait les productions de Fabienne Larouche, tout ce qui concernait les productions de Sophie Lorrain, et il y avait une autre maison qui décidait de se retirer complètement des Gémeaux parce que, justement, ben, les catégories spéciales pour accommoder Stat et Indéfendable, les catégories non-genrées aussi avaient un peu joué là-dedans, puis que ça coûtait trop cher de s'inscrire aux Gémeaux, donc on avait décidé de se retirer complètement. Ce qui avait fait apparaître quelques nouvelles personnes sur le tableau, des émissions justement de Télé-Québec ou de TV5 qui normalement n'auraient peut-être pas fait de classement de par justement les autres productions. Mais bon, tant mieux si ça peut offrir un peu de visibilité à d'autres projets que tout le jour les mêmes émissions de ce côté-là, ce qui fait en sorte que la nouvelle émission Sorcière repart avec le trophée pour meilleur premier rôle féminin. Les trois comédiennes principales étaient en nomination, Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher, mais c'est Noémie O'Farrell qui est repartie avec le trophée devant Noé Belkira d'Indéfendable et Maude Guérin de la dernière saison de 5e rang. On aurait pu penser que Maude Guérin l'emporterait, mais sauf erreur, elle l'avait fait l'année passée. Dramatique annuel devant François Papineau, lui aussi de la dernière saison de 5e rang. C'est Frédéric Pierre de la série Alerte qui l'a emporté. Ce que j'étais quand même content et que certaines personnes semblaient surpris, mais en premier rôle masculin dans une dramatique, c'est allé à Pierre-Luc Funk pour Plan B. On pensait qu'avant le crash, Émile Procloutier pourrait peut-être l'emporter, mais bon, c'est Pierre-Luc qui a été choisi. Et également, pour l'émission dramatique annuelle, ce n'est pas « C'est comme ça que je t'aime » saison 3 qui l'a emporté, mais bien « Plan B » saison 4. « Plan B » est toujours difficile à déloger. C'est sûr et certain, dramatique annuelle, c'est « Alerte » saison 4 qui l'a emporté. Et finalement, pour le premier rôle féminin, même si ce n'est pas avant C'est comme ça que je t'aime qui l'a remporté. Marilyn Castonguay, elle l'a remporté comme étant la meilleure actrice pour les dramatiques. On a fait le tour, on a réussi. On s'arrête quelques instants au retour. Petite critique cinéma. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Gab Paquet qu'on vient d'entendre en musique. J'ai comme un doute si je l'ai mentionné, mais je m'en voudrais de ne pas le mentionner si je ne l'ai pas fait. Meilleure série documentaire d'observation, Être ado, qui a remporté le trophée pour cette série documentaire-là qui suivait sur les 5 années du secondaire, 10 jeunes du Québec qui évoluaient. En plus, la pandémie a frappé pendant les années de secondaire 3 et 4. Donc, c'était complètement intéressant, cette série-là, sur les ondes de Télé-Québec également. Courte bande-annonce, celle du film qui prend l'affiche, La Petite et le Vieux, mettant en vedette notamment Gilda Roy.
Je veux pas m'entendre que c'est toi que ça tire.
OK.
On va
chercher M. Roger à côté.
Viens chez nous, ma soeur, à Bidou-Javel.
Maudit hostie vierge de Gériboire, de Calice, d'hostie de Saint-Simonac, ça se peut-tu, un enfant de même? Quand t'as une tête de mort sur une bouteille, tu touches pas à ça.
C'est
mon
cage. Roger, c'est gros occupé de grand-papa quand il était au centre.
Si on n'est pas bien occupé, il est mort.
Tu trouves une nouvelle job, finalement?
Un café 2-2!
Puis moi, un grilled cheese bacon!
C'est qui a commandé un grilled cheese à petit pardu, là?
Moi!
T'es dans la marde, ma fille.
Pourquoi tu fais passer les journaux?
Parce que je veux que mon père arrête de travailler. Comme ça, il va être heureux.
Au combat et à la victoire!
Mais l'argent fait pas le bonheur.
C'est juste les pauvres qui disent ça, maman.
Parce que tu penses qu'on est pauvres?
Mais on peut pas dire qu'on est riche.
On va être fait fort. Faire ce job-là.
Ça donne bien. Je suis comme la petite mousquetaire. Et bien courageuse, tu sais, comme moi.
J'ai gagné!
Je vais jusqu'en bas de la côte.
Non. Pas de la côte, c'est un autre monde.
Essaye de pas finir toutes tes phrases par mon petit marde.
C'est à cause de Roger.
Oh, mêle-moi pas là-dedans.
C'est vrai ce que ton père dit, puis il supposait croire que tout le monde est beau, que tout le monde est fin. Parce que le bonheur, ça se force pas sur quelqu'un qui en veut pas.
C'est ça que ça sert, Léon, à nous motiver à être comme eux.
Ma mère aime pas bien ben gros le monde qui sac comme toi.
Ben, c'est ta mère, ta basse-lac, c'est pas la mienne.
Année 80, Québec. Elle se nomme Hélène, mais se fait appeler Jo parce qu'elle veut être comme Joséphine, la petite mousquetaire, son héroïne de dessin animé préféré. Jo n'a que 10 ans, 3 sœurs, un père très occupé à être malheureux. Oh, c'est le fun. Et une mère compréhensive, mais stricte. Elle vit dans un quartier populaire, peuplé de gens colorés, dont le plus attachant est son nouveau voisin, M. Roger. Un vieil homme bourru qui cache un cœur tendre. Avec son âme romantique, un imaginaire avide de grands drames, Jo aimerait aussi réaliser de grands exploits. Un jour, elle se donne la mission de sauver son père du travail et du malheur. Le film sort en fait la semaine prochaine, même dans 2 semaines, c'est le 4 octobre. Oups! Mais on a eu le plaisir de le voir cette semaine déjà. Donc, ça sera surveillé dans les prochaines semaines. Gilda Roy, qui interprète M. Roger, Juliette Baroucha, qui est une toute nouvelle comédienne. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vue dans d'autres séries. Vincent Guillaume-Otis, Marilyn Castonguay, qui joue les parents. C'est sympathique comme film. Ça vaut quand même la peine d'aller le voir pour, encore une fois, encourager le cinéma québécois et tout ça. Mais disons que c'est une belle carte postale du vieux Québec, de Limoilou, du vieux Limoilou. C'est une belle représentation de Québec parce qu'il n'y a pas grand film qui se font à Québec, malheureusement. Mais dans ce cas-ci, on est vraiment dans les quartiers reconnaissables. On sait où est-ce que c'est tourné. Est-ce que c'est un très bon film? Pas tout à fait, parce que justement, c'est beaucoup de scènes, on aime ça être en extérieur, on aime ça montrer le quartier, mais le scénario, l'histoire en tant que telle, il y a comme deux fins. Il y a comme deux fins, puis quand on pense que c'est fini, il reste comme un dernier 20 minutes que j'ai l'impression que si ce 20 minutes-là avait été mis avant la première fin, ça aurait fonctionné. C'est sûr qu'il y a un conflit qui vient un petit peu étrange, mais ça aurait fonctionné. Et il y aurait eu une plus belle fin. Là, on a comme décidé d'élargir, de rajouter. On finira pas tout de suite. On va rajouter un autre problème. On va rajouter un autre enjeu. Fait qu'on va l'étirer. Et c'est ça qui est un petit peu plate. C'est justement ce sentiment-là d'avoir étiré le produit alors que c'était quand même bien parti. Quoique que c'est vrai, il y a quand même une scène qui reste surprenante, mais qu'on tasse un peu rapidement. Mais bon, pour être le deuxième film cette année à se passer de ça dans les années 70-80, je trouvais qu'on était plus proche d'un Québec réaliste dans La Petite et le Vieux, qui est l'adaptation d'un roman, comparé, par exemple, aux Belles-Sœurs, que là, c'était coloré, tout le monde était habillé en fluo et nanana. Là, dans celui-là, c'est les années 80, un peu plus réel, là, les années 80, que tout le monde est habillé en brun, que justement, les couleurs, il y en a, mais tu sais, les chandails de job au bingo sont roses, mais tu sais, sinon, tout le monde est habillé en brun, tout le monde porte de la flanelle, tu sais. On est dans un Québec des années 80 beaucoup plus réaliste, un peu comme l'a été 1981 de Ricardo Troggi, sauf que là, on est dans l'humour aussi, mais peut-être pas comme Ricardo, qui lui, c'est vraiment beaucoup plus humoristique. La Petite et le Vieux a quand même un bon fond, là, tu sais, au sens où il y a une belle morale quand même si elle est un peu stretchée. Et que justement, je sais pas à quel point ça fait en sorte que c'est à cause du film qu'on a fait des différences, parce que j'ai pas lu le roman de Marie-Renée Lavoie. Ah, ben, tu vois, déjà dans le roman, c'est Lady Oscar, son héroïne de dessin animé préférée, et non pas la petite mousquetaire, ou au moins que ça soit la même. Bref, il y a déjà des petites différences juste dans le résumé du roman et du film. Fait que, est-ce que ça a été bénéfique à voir? Peut-être ceux qui voudraient lire le livre, ça peut être intéressant de faire le comparatif. 200 quelques pages, disponible sur le site des libraires. En tout cas, fait, ça vaudra la peine. Ça va rencontrer le public que ça a rencontré. Là, c'est un Gildoroy un peu entre les deux. T'sais, on a le commandant Chiasson et on a M. Dumas à Radio-Canada. Dumas étant maudit tout le temps et le commandant Chiasson était bien avenant. Là, on a comme un hybride des deux pour le vieux. Dans ce cas-ci, le monsieur Roger. Fait que, ne serait-ce que pour ça, Gildoroy tire quand même bien son épingle du jeu au travers de ce film-là. Puis, ironiquement, Marilyn Castonguay joue une femme des années 80 là-dedans aussi. À Québec, qui plus est. Un peu comme c'est comme ça que je t'aime. Mais c'est pas du tout Huguette non plus. Fait que, qu'on se le tienne pour dit. C'est une mère un peu plus aimante, celle-là. Quoique, Huguette l'est quand même aussi. Non, c'est comme ça que je t'aime. Mais bon. Je divague. Ça prend l'affiche dans 2 semaines. Ça pourra valoir la peine d'aller y jeter un œil à ceux qui pourraient y être intéressés, bien sûr. La petite et le vieux. Ça s'appelle et ça sort dans les prochaines semaines. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service du Réchaud, ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. À la semaine prochaine. Salut!